Voici des ailes, chapitre 5. Ils allaient par les plaines, tous deux, et Pascal s'écria « Oui, nos rapports avec la nature sont bouleversés. Imaginez deux hommes sur un grand chemin. L'un marche, l'autre roule. Leur situation à l'égard de la nature sera-t-elle la même ? Oh non ! L'un recevra d'elle de menues sensations de détail, l'autre une vaste sensation d'ensemble. » À pied, vous respirez le parfum de cette plante, vous admirez la nuance de cette fleur, vous entendez le chant de cet oiseau. À bicyclette, vous respirez, vous admirez, vous entendez la nature elle-même. C'est que le mouvement produit tend nos nerfs jusqu'à leur maximum d'intensité et nous dote d'une sensibilité inconnue jusqu'ici. « J'aime, dit-elle, quand vous parlez de tout cela. » Et ce n'est pas, je l'avoue, que je m'attache tant au sens des paroles, mais j'éprouve peu à peu tout ce que vous éprouvez, tellement votre conviction me gagne. » Il continua. « Et puis, il n'est rien où le résultat obtenu corresponde plus exactement à l'effort donné. On a la joie de créer, en vitesse et en impression, l'équivalent de ce qu'on a dépensé en énergie et en espoir. » On avance parce qu'on est fort et souple, et l'on voit de belles choses parce qu'on est capable d'aller les voir. N'y a-t-il pas là de quoi être fier et satisfait ? Oui, satisfait, car chaque coup de pédale reçoit sa récompense immédiate et magnifique. On se réjouit d'être l'objet d'une perpétuelle justice. Il répéta, « C'est cela, c'est cela. On se réjouit d'être l'objet d'une perpétuelle justice. » Changeant d'idée, il prononça d'une voix sincère « Enfin, surtout, je lui dois à elle de vous voir ainsi, et c'est un spectacle qui vaut tous les autres, une récompense inappréciable. » De cela, en effet, il ne se lassait pas, restant derrière elle indéfiniment pour jouir de sa silhouette et de son geste. Il dit « Faut-il être aveugle et de mauvaise foi pour refuser à ce sport toute prétention artistique ? Pourquoi l'accorder à un cavalier et pas à nous ? En quoi nous est-il supérieur ? Lui également, si on supprime le cheval en imagination, sera ridicule avec ses jambes écartées, ses genoux ployés et ses pieds rentrés. Mais on le juge, et à bon droit, sans le séparer de sa monture. » Pourquoi ne nous apprécie-t-on pas ainsi, nous, selon les lois de notre exercice, selon notre but, qui est d'avancer plus rapidement, sans fatigue, sans secousse, d'utiliser tous les muscles dont nous disposons, de répartir notre énergie comme il convient ? Cela admis, ne pourrait-on dégager, par comparaison et par habitude, l'esthétique d'une silhouette ? Et affirmer que tel d'entre nous monte bien et tel autre mal, comme on le dit d'un cavalier. » Et il ajouta, « En vérité, l'être harmonieux ne l'est jamais autant que quand il roule de la sorte, de ce mouvement monotone et simple. Ainsi, pour moi, vous êtes l'harmonie même, l'harmonie dans la grâce et dans la force et dans la persévérance. » Vos jambes me font penser à tout ce qui est agile et léger. Votre buste à tout ce qui est stable, ferme, inébranlable. Je vous regarde comme on écoute un rythme grave et doux. Vous êtes un beau vers sans fin, toujours le même et toujours renouvelé. » Elle lui sourit ingénument. « Ne craignez pas de me gêner, Pascal. J'adore les compliments. » Alors il l'interrogea sur elle et sur ce goût des hommages qu'elle avait souvent remarqué, et elle répondit « Oh, est-ce instinct ou habitude, je ne sais trop. Toute femme a besoin d'être admirée selon les mérites qu'elle s'attribue. Or, ce pauvre Guillaume se soucie fort peu de ce besoin chez moi. J'ignore même s'il me trouve à son gré. C'est pour cela sans doute que je cherche l'approbation des autres. » Car, je l'avoue, je la cherche. Leurs flatteries me sont devenues nécessaires. Les jours où je n'en suis pas abreuvée sont plus vides. Et puis, je n'ai guère d'autre plaisir. » Elle avait parlé tristement. Était-ce seulement les louanges qu'elle souhaitait? Ne lui manquait-il pas, plus que l'admiration à laquelle avait droit sa beauté, des joies moins superficielles et moins banales? Et dans la frivolité des flirts, n'espérait-elle pas assouvir des instincts inconscients d'affection, de tendresse et d'amour? Il la soupçonna prête aux confidences et ne l'y voulut point inciter. Mais au courant des habitudes dissipées de Guillaume, il comprit nettement la vie de cette femme. Que de mélancolie et de révolte devait cacher sa belle humeur! Il la devina grave et sentimentale. Il lui dit « Je suis votre amie, Madeleine. » Elle fut émue. Lui aussi, le son de sa voix le troubla. Il murmura « Non, pas votre amie. Plus que cela. Et mieux que cela. » Ils s'arrêtèrent à la vue de deux bicyclettes couchées sur le bord de la route et qu'ils reconnurent pour celles de Régine et d'Arjol. On devinait une petite rivière au creux d'une gorge boisée. À travers les arbres, ils descendirent, attirés par un bruit de voix où dominait le rire de Régine. Et soudain, parmi le désordre de grosses roches moussues et de pins farouches, ils l'aperçurent, qui pataugeait dans l'eau, les jambes nues. Assis près d'elle sur une pierre, Guillaume la regardait. « Viens voir, Madeleine !» s'écria-t-elle. « C'est plein d'écrevisses. Ça me passionne. Tenez, tenez, en voilà une !» Elle se releva, triomphante, la bête entre ses doigts attentifs. Elle avait relevé sa culotte aussi haut que possible, roulant l'étoffe autour des cuisses, ainsi que les petites filles qui jouent au bord de la mer. Et de l'évasement accru des hanches, les jambes coulaient comme des sources de lait, s'effilaient comme des stalactites de chair, pures et délicates, toutes blanches et toutes rondes. Madeleine observa Pascal. Il avait un air dur et mécontent, mais il rencontra les yeux de son ami et il réussit à lui sourire. Régine, cependant, continuait sa pêche. Avec de petits cris haletants, elle entrait dans des trous plus profonds où l'eau voluptueuse baisait sur ses cuisses d'un baiser frais et chuchoteur. Elle marchait ainsi de pierre en pierre, toute hors de l'eau, tâtant avec son pied, comme avec une main défiante, les cailloux les plus solides. Et c'était un délicieux spectacle. Les jambes semblaient de longues tiges flexibles, terminées par des fleurs épanouies. Elles avaient une vie frémissante et nerveuse. Elles avaient des attitudes nobles. Elles ployaient comme des bras agiles. Elles émergeaient comme des colonnes orgueilleuses. Elles se croisaient comme de jeunes bouleaux à l'écorce d'argent. Elles étaient aussi liées que deux sœurs jumelles et aussi libres l'une de l'autre que deux étrangères. Immobiles autour d'elle, ils suivaient ses gestes. Elle éclata de rire. « Eh, dites donc, vous avez l'air de trois statues. Vous, Guillaume, celle de la convoitise bien élevée. Toi, Pascal, celle du courroux maintenu. Et toi, Madeleine, toi ?»«
Moi ?» exclama Madeleine. « Je t'admire, tu es toujours si naturelle, si à ton aise. »
Régine s'assit sur un tronc d'arbre, se frotta la peau avec des feuilles sèches, renfila ses bas et se rajusta. « Voilà, je suis prête. Venez-vous, Guillaume ?» Elle lui prit la main et ils disparurent. On aperçut leur silhouette glissant sur le vieux pont qui traverse le ravin. Madeleine dit à Pascal « Répondez-moi franchement. Vous avez été jaloux, là, tout à l'heure ?»«
De d'Arjol ?»«
Non, pas de lui, mais de ce que quelqu'un vit les jambes de votre femme. » Il hésitait. Elle ne le laissa pas répondre, et d'un ton singulier, à la fois impérieux et suppliant, « Je ne veux pas que vous soyez jaloux de Régine, Pascal. » Ils repartirent. La route était monotone, le paysage ordinaire. Ils allaient doucement, songeurs. Et Pascal prononça « Je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti. En tout cas, quelle différence avec ce que j'aurais éprouvé autrefois. J'ai été gêné, surtout, comme en face d'une femme qui se conduirait publiquement d'une façon inconvenante. Mais cette femme n'était pas la mienne. »
Non, elle n'était pas celle que j'appelais ma femme, ainsi qu'on parle d'une chose à soi. » Il ajouta lentement, « Elle n'est plus ma femme. Je ne sais pourquoi je m'imagine qu'elle est très différente de ce que je la croyais. Vous la félicitiez de son naturel. Oui, elle est naturelle. Mais est-ce un bien si sa nature est inférieure, comme j'en ai l'intuition subite, et si elle n'a que des instincts frivoles et douteux ?» Ils avançaient à peine. L'effort de leur pensée nuisait à leur effort physique. Madeleine, vainement, cherchait à rompre un silence qui l'inquiétait. Pascal dit à voix basse, « En vérité, non, je n'ai plus sur elle ce sentiment de propriété que l'on garde sur ceux que l'on affectionne. Je ne l'ai plus. Et comme c'est drôle, je me surprends parfois à l'éprouver à votre égard. » Elle s'efforça de rire. « À mon égard? Vous plaisantez ?»« C'est le soir, » dit-il. « C'est le soir, surtout, quand on se quitte. Il me semble qu'il y a quelque chose d'anormal. Cela m'irrite de me retirer avec Régine. Et puis vous, avec un autre. Pourquoi ?» Il n'acheva pas, Madeleine s'écriait. « Ah, les voilà !» Il s'attendait en effet à l'entrée des villes pour le choix d'un hôtel. Devant eux se dessinait Falaise, étrange cité bâtie sur des escarpements sauvages que domine le roc où jaillit un château aux 12 tours et aux donjons colossales. Par des rues âpres, ils parvinrent à l'hôtel. Mais comme le patron leur montrait des chambres, Régine protesta. « Écoute, Pascal, en voyage, nous devrions bien renoncer à nos habitudes. Les lits sont tout petits, on y dort très mal, alors qu'on aurait besoin de bonnes nuits pour se reposer. » Il approuva tout de suite. Ils prirent 2 chambres. Guillaume proposa « Elle a raison, si nous en faisions autant, Madeleine. » « J'avoue, dit-elle, que je suis horriblement fatiguée. » Ils prirent 2 chambres, eux aussi. Chapitre 6. Comme la vie est belle. Oui, répondit-elle, la vie est belle et bonne. Du regard et du sourire, ils se remercièrent de tout ce que l'un devait à l'autre dans la conquête de telle joie. Pascal reprit. J'ai pour la première fois l'impression de vivre une vie neuve, une vie que je n'ai pas encore vécue et qui n'a jamais servi. Ma vie est forte comme celle d'un enfant, et j'en jouis comme il jouirait de la sienne s'il en savait le prix inestimable. Ils roulaient parmi l'escorte immobile des peupliers symétriques, à travers des plaines coupées de molles vallées où s'alanguissaient des rivières paresseuses. Le soleil se baignait dans l'eau avec les martins pêcheurs et les bergeronnettes. Du foin, du trèfle, du chèvrefeuille, du sureau étaient chargés de parfumer l'air. Ah, Madeleine, il ne reste plus rien de l'enveloppe de verre dont je vous parlais un soir. C'est ma peau elle-même que frappe la vie du dehors. Ce sont mes sens qui reçoivent les chocs. C'est mon cerveau qui vibre et qui s'émeut. J'ignore tout de la nature, et je ne suis pas digne de la comprendre puisque je l'ai si longtemps dédaignée. Et cependant, je devine qu'elle m'envoie des cadeaux ininterrompus, et que nul obstacle ne s'oppose à ses bienfaits. Il n'est pas un parfum, pas un bruit, même de ceux que je ne sens pas et que je n'entends pas. Il n'y a rien autour de moi, j'en suis sûre, qui ne vienne s'engouffrer en moi comme autant de petites sources qui filtrent vers un abîme. « Pascal, murmura-t-elle, Pascal, il me semble que vous parlez pour moi, tellement vos paroles disent tout ce que je sens. » Oui, chacun d'eux n'était plus qu'une masse sensible, délicate, frémissante, où palpitait la foule des sensations. Et quelles sensations particulières que celles-là, pressées et puissantes et innombrables. On est comme augmenté, comme gonflé de tout ce que l'on voit et de tout ce que l'on admire. Fièvre d'éternelle jeunesse, où la jeunesse se hausse à un degré d'acuité extraordinaire, où l'on est imprégné d'émotion et de bonté, où l'on voudrait embrasser les êtres et les choses. La mémoire, l'intelligence se suspendent, tant mieux, car c'est la vie qui surgit des réservoirs de notre être, comme une eau limpide qui chasserait les vases fiévreuses. C'est la vie qui prend connaissance d'elle-même, de sa force, de son étendue, de sa profondeur. C'est la notion de la vie qui nous apparaît seulement ici, vis-à-vis de la nature. Comme parfois, moins haute et moins noble, elle nous apparaît vis-à-vis de l'esprit dans l'extase de l'art, vis-à-vis de l'humanité dans la communion des sexes. L'espace les grisait. Leur bouche balbutiait des phrases au hasard. Il n'y a plus de chagrin, Madeleine, ni tristesse, ni rancune. Il y a du bonheur. Je suis heureux. Vous êtes heureuse, Madeleine. Heureuse, oui, beaucoup, au-delà du bonheur. Ils le criaient, ce bonheur. Ils en prenaient le ciel à témoin, levant la tête comme s'il leur eût fallu l'immensité pour contenir ce qu'ils avaient en eux. Et ils allaient, le long des rivières, le long des collines. De temps en temps, ils se regardaient, et c'était infiniment adorable. Ils ne s'imaginaient pas l'univers l'un sans l'autre, dans ce vol mystérieux. Ils semblaient à chacun n'avancer qu'en vertu d'un pouvoir anormal, qui était la force de l'autre, ou bien par la crainte de perdre le charme de sa présence et la douceur de ses yeux. Et chacun, ainsi, glissait sans effort, aussi aisément que s'il avait été l'ombre de l'autre. « Ah, le beau chèvrefeuille !» s'écria Madeleine. Elle n'y put résister. Ils descendirent. Des guirlandes s'entremêlaient parmi les ronces sur le tronc d'un vieux chêne mort. Pascal se mit à les dégager, et Madeleine, une à une, prenait les tiges sinueuses où s'ouvrent les petites fleurs dorées et roses. Elle les embrassait, elle les pressait contre ses paupières et contre ses joues. Elle s'en fit une couronne, elle s'en fit un collier, et une ceinture, et des bracelets. Elle était d'une gaieté exubérante. Elle chantait, elle riait. Quand il n'y eut plus de chèvrefeuille, elle réunit toutes les branches cueillies en une longue gerbe. « Quelle jolie chevelure !» dit-elle, et les levant au-dessus de sa tête. « Une chevelure de faunesse, n'est-ce pas ?» Leurs yeux se rencontrèrent. « Je vous aime, » dit Pascal. Elle fut comme quelque bête, blessée soudain, qui trébuche dans sa course ardente. Son bras retomba, les fleurs jonchèrent le sol, ses jambes fléchirent, et elle s'assit sur le talus. Ils restèrent l'un en face de l'autre, troublés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, et n'osant remuer, ni se regarder. L'aveu était si brusque et si imprévu qu'ils ne savaient trop s'ils en ressentaient de la joie ou de la tristesse. C'était de la tristesse, un adieu mélancolique à ces jours de délices et de mystères où ils allaient au hasard des chemins et au hasard de la vie, confiants en l'aventure qui les entraînait par des voies heureuses vers quelque but dont ils ne cherchaient pas à connaître le secret. C'était de la joie également, un espoir immense, un geste de leurs mains tendues vers l'avenir resplendissant de promesses. Et ils ne se décidaient point à s'éloigner. Il leur semblait qu'un événement considérable venait de se produire. Une angoisse les étreignait à l'idée de quitter ce petit coin du monde, témoin d'un tel prodige. Ils ne le reverraient plus, assurément. Quelle certitude désolante! Comme on emporte une poignée de terre sainte pour la semer sur une tombe, ils en auraient bien emporté quelques parcelles pour envelopper le souvenir d'une minute. Du moins, leurs yeux avides s'ouvrirent, et tous leurs sens, ainsi que des espaces où se reconstitua le décor sacré, avec tous ses détails de couleurs, de parfums et d'atmosphère. Enfin, au déclin du jour, Pascal ramassa les fleurs éparses. Il en orna le guidon de Madeleine et ils partirent. On devait se retrouver à Saint-Lô, mais à cause de l'heure tardive,
ils jugèrent plus sage de s'arrêter dans une auberge et de s'y restaurer. Quand ils se remirent en route, la nuit était venue. Une nuit vaste et sonore, éclairée d'étoiles lointaines, frissonnantes de bruits indistincts. Elle les emplit de respect et tint close leurs lèvres. Mais le long d'une montée, comme il supposait sa compagne un peu lasse, il posa la main sur son épaule, et elle se soumit à ce geste d'assistance. Alors ils glissèrent, pareils à des fantômes, leurs ombres mêlées comme des oiseaux de nuit qui vogueraient côte à côte. Ils étaient infiniment heureux, et ils ne doutaient point que la même béatitude les envahît, tant l'harmonie de la nuit leur semblait appeler l'harmonie des impressions. Ils n'avaient qu'une seule pensée, ils n'avaient qu'une force. Rien ne les distrayant, ni le bruit des pieds qui heurtent le sol, ni l'effort des jambes, ni les spectacles invisibles, ils se croyaient colportés dans les bras de quelque génie. La route montait et descendait par pentes moelleuses, et dans la sorte de délire où les jetait la vitesse, ils eussent dit plutôt que c'était la terre qui s'enflait et qui s'abaissait, comme une poitrine que fait palpiter le rythme de la respiration. Ils étaient ivres. Un élément de puissance et de grandeur croissait en eux. Émotion étrange, bonté débordante. Leurs bras s'ouvraient comme pour un embrassement. La résistance que l'air oppose leur donnait l'illusion de quelque chose qui venait à leur rencontre et se blottissait tendrement contre leur poitrine. Le souffle de la brise sur leurs lèvres, c'était un ineffable baiser d'amour. Les suaves effluves du chèvrefeuille les troublaient comme des caresses secrètes. Ils allaient, la folie du mouvement les exaltait, ils se sentaient des êtres surnaturels, doués de moyens nouveaux et de pouvoirs inconnus, des espèces d'oiseaux dont les ailes rasaient la terre et dont la tête ardente planait jusqu'au ciel. Leur conscience s'évanouit, dissoute dans les choses. Ils devinrent des parcelles de la nature, des forces instinctives, comme des nuages qui glissent, comme des vagues qui roulent, comme des parfums qui flottent, comme des bruits qui se répercutent. Chapitre 4. Ils eurent tous quatre, le lendemain, d'assez mystérieuses façons. Tandis que les deux maris visitaient Saint-Lô, ses vieilles maisons, sa jolie cathédrale à chair extérieure, les deux femmes se confinèrent dans leur chambre, y déjeunèrent et n'en sortirent qu'au moment du départ. Régine déclara « Je vous avertis que je suis fatiguée. »« Eh bien, répondit d'Arjol, demain, repos à Coutances. En attendant, dépêchez-vous, il faut y arriver pour dîner. »« Non, non, je ne me dépêche pas. J'en ai assez de votre train d'enfer. Aujourd'hui, je marche avec les deux paisibles. » Il bougonna mécontent. Tous quatre, comme ça, en bande? Ah non! Allons, viens, lui dit Madeleine, je me dévoue. Visiblement, elle évitait Pascal. Lui, d'ailleurs, ne paraissait point la rechercher. Et l'étape s'effectua de cette étrange manière, les deux ménages se suivant à 300 ou 400 mètres d'intervalle. Ils eurent l'air de s'ennuyer beaucoup. Un instant, Régine se montra fort aimable avec son mari. Elle le complimentait sur sa position, sur son allure aisée, sur sa bonne mine, d'un ton affectueux, comme si elle eût voulu se faire bien voir de lui. Il fut inquiet. Se doutait-elle de quelque chose? Par prudence, il se mit en frais. Dès lors, elle se tut. Lui se tut également. Devant eux, il voyait les silhouettes de l'autre couple, divisées par toute la largeur du chemin, l'aspect rébarbatif. Le soir, à Coutances, on se sépara d'eux-mêmes. Le lendemain, cependant, Régine et Guillaume se promenèrent ensemble à travers la ville charmante aux églises incomparables, et au déjeuner, Pascal sut que Madeleine avait erré de son côté. Elle le fuyait toujours, sans qu'il tâchât davantage à se rapprocher d'elle.
Mais l'après-midi, ils se trouvèrent tous deux dans le jardin public et elle courut à sa rencontre. Un regard doux et profond les unit. Ils se sourirent, puis Madeleine prit Pascal par le bras, l'entraîna vers un banc et lui dit « Vous savez, Pascal, je vous aime, je vous aime. » Elle prononça ces mots avec une joie infinie, avec un accent qui révélait combien elle était heureuse de l'aimer et heureuse de lui annoncer cette bonne nouvelle. Il fut profondément touché. Il vit jusqu'au plus profond d'elle-même en cet élan de franchise. Il la devina simple, loyale, ardente à vivre et d'âme grave. Il ne put que lui dire « Ah, Madeleine ! Ah, Madeleine !» Il se tenait les mains. Il la contemplait éperdument des pieds à la tête, comme s'il remarquait pour la première fois sa beauté merveilleuse et diverse. Il aima ses larges yeux calmes, la noblesse de son front, toute la pureté de ce visage où s'épanouissait cependant une bouche sensuelle aux lèvres tendues, une bouche en offrande. Il admira l'harmonie de ses épaules et de ses hanches et ses attitudes et ses gestes. « J'ignorais que vous fussiez si belle, Madeleine. Alors, pourquoi m'avez-vous aimée ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a tant d'autres raisons de vous aimer que j'avais oublié celle-là, qui est la plus apparente, et j'en suis content. Il me semble que vous n'êtes belle que depuis que vous m'aimez. » Un adorable jardin les entourait, clos de vieux murs moisis et s'étageant en terrasse au-dessus d'un frais vallon de verdure. Des cèdres et des tilleuls, des magnolias, des massifs épais augmentaient l'intimité de sa solitude. Des lauriers roses et des camélias l'égayaient. Elle lui dit « Pardonnez-moi de vous avoir fui, Pascal. J'étais si bouleversée que je ne savais ce qui se passait en moi, et je voulais voir clair. Oh, quel bonheur quand j'ai su que j'aimais enfin, que je vous aimais. » « Moi aussi, » répondit-il. « J'ai voulu me reprendre. Des scrupules me tourmentaient. » car je sentais bien que j'avais parlé sous l'influence de l'exaltation, où le mouvement, où la nature, où la griserie de l'air nous emportaient tous deux. Mais du moins, ces paroles exprimaient-elles la vérité de mon âme? Et comme elles, mes sentiments n'avaient-ils pas été provoqués par cette sorte d'ivresse si spéciale et si troublante? Elle fut anxieuse, il sourit. « Soyez en paix, Madeleine. » J'ai certes parlé malgré moi, inconsciemment, beaucoup plus tôt que je ne l'eusse fait. Mais je le sais, j'ai parlé selon moi. Je vous aime. » Ils se regardèrent encore, très longtemps et très affectueusement. Ils étaient tout étonnés de s'aimer après 5 ans d'indifférence. « Il est à supposer, dit Pascal, que nous ne pouvions nous voir que sous notre forme actuelle. » qui est si dissemblable de notre forme passée. Nous étions comme des objets neutres, vagues, sans contour, et qui soudain acquéraient des couleurs vives, des lignes précises, une existence personnelle. On les voit seulement alors. Ainsi, dès que nous nous sommes aperçus, nous nous sommes aimés. Notre première rencontre date de cette fin de jour où nous avons fait route ensemble, dans la vallée de Cany, vous rappelez-vous ? « Oui, je me rappelle, ma vie date de là. »« Notre vie date de là !» s'écria Pascal. « Tout est changé, nos habitudes et nos plaisirs, nos aspirations, notre âme même. Ou plutôt, tout est remis à sa place. Je le sens aujourd'hui. J'ai vécu jusqu'aujourd'hui en dehors de moi, dans un milieu qui n'est pas le mien, parmi des gens avec qui je n'ai rien de commun. » Et ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est que je ne le savais pas. J'étais honteux de ne pas m'y plaire, persuadé de mes torts. J'imitais les autres pour leur ressembler. Je me moquais de mes rêveries, de mon caractère taciturne et maussade. Et parbleu, mes réserves n'étaient que des pensées qui s'essayaient. Et si je me taisais, c'est que j'aurais voulu parler d'autre chose. Il répéta d'une voix de certitude. « Oui. ce voyage a remis les choses en leur place. L'existence indépendante que nous menons nous a rendus à la vérité. Vivant librement, en dehors des règles et des convenances, nous avons été conduits à notre insu à sentir librement, à penser librement, à aimer librement. Jetés subitement en plein contact avec la nature, nous sommes régénérés. Nos instincts se dégagent de tout cet encombrement d'obstacles qui les contrariaient. Et nous y obéissons. Et nous trouvons tout simple d'y obéir. Ce n'est donc pas étonnant que nous nous aimions, Madeleine. Le premier instinct libéré ne devait-il pas être l'instinct d'amour ? Oh, dit-elle, c'est lui qui m'agitait confusément jadis quand j'attirais les hommes autour de moi et que j'épiais le tressaillement de leur cœur. Depuis le premier jour de ce voyage, Pascal, je sens que toute ma tendresse et toute ma vie se concentrent, grossissent et vont vers vous, telles des sources perdues qui trouveraient enfin leur chemin. » Ils se promenèrent dans une allée de tilleuls d'où la vue s'étend sur des collines ornées de prairies et de vergers. Au fond du vallon, les ruines d'un aqueduc s'enveloppent de lierre. Le charme du paysage imprégna leur amour de douceur et de confiance. Ils s'appuyaient aux bras l'un de l'autre. Madeleine dit « Je vous aime, Pascal. » Elle s'arrêta. Il vit ses yeux mouillés de larmes et il dut la soutenir car elle défaillait d'émotion. Elle murmura « C'est la première fois que je dis ces mots-là, Pascal. Alors, cela me bouleverse. La première fois. Vous me croyez, n'est-ce pas ?»«
Je vous crois, Madeleine. »
Il lui prit les mains et les yeux. « Regardez-moi bien, Madeleine. Nous savons ce que nous faisons et où nous allons. Eh bien, qu'il n'y ait pas entre nous de prière ni de coquetterie. Madeleine, vous serez à moi, n'est-ce pas ?» Elle ne baissa pas les yeux et nul embarras ne la fit rougir. Pourtant, il la sentit qui palpitait à cette idée qu'elle n'avait pas encore envisagée. Elle répondit gravement « Je serai votre, Pascal, quand vous jugerez que l'heure sera venue. » Chapitre 8. Les flammes du soleil brûlaient l'espace. Sous la voûte des frondaisons lourdes, sous des branches de sapin tendues comme des palmes vigilantes, jouait une source. Cette oasis les retint. « Comme l'eau est tentante, » dit Madeleine. « On voudrait, quand il fait chaud, que l'air fût cela, de l'eau à travers laquelle on marcherait, si seulement on en avait jusqu'aux pieds. » Une berge dévalait, veinée de racines. Ils y prirent place. Pascal insinua. « Madeleine, trempez vos pieds dans cette eau, ça vous délassera, et c'est un spectacle que j'aimerais. » Elle l'examina un peu tristement. « Pascal, Pascal, ce n'est pas bien. Vous cherchez à effacer un autre souvenir et à me forcer à faire une chose parce que Régine l'a faite. » «
Pourquoi non ? » avoua-t-il.
« Soyez indulgente à ma faiblesse. Peut-être aussi voudrais-je qu'il y ait eu entre nous moins de réserve. Nos âmes se rapprochent chaque jour, et cependant des obstacles s'opposent à nos mains, qui aimeraient s'étreindre, à notre désir secret d'un peu plus d'abandon. » Elle enleva ses souliers, elle défit ses bas, et elle offrit ses jambes à l'eau. « C'est ma faute, dit-elle. Je deviens d'une pudeur ridicule. Comment ai-je pu montrer mes épaules à tant de gens et avec tant d'insouciance? Je ne le pourrai plus aujourd'hui. Auprès de vous, j'ai des frissons de honte. Je voudrais me cacher parfois. Vos regards me touchent ainsi que des mains. » Elle était toute rougissante. Elle le supplia en riant d'elle-même. « C'est assez, n'est-ce pas ? » ?»« Chère Madeleine, je vous aime ainsi. » Et néanmoins, je serai si content de vous voir libre avec moi, tout à fait à l'aise. » Elle n'osa pas résister quand, au sortir de l'eau, il lui fit allonger les jambes sous un ardent rayon de soleil qui traversait les arbres. « Oh, Pascal » murmura-t-elle, confuse comme une vierge. Elle se couvrit le visage de ses bras croisés. Lui,
s'étendit auprès d'elle, et l'un après l'autre, il lui prit les pieds dans ses mains réconfortantes. Il les frotta rudement, car ils étaient tout froids. Puis, les frôlant de sa bouche tendue, il promena son haleine chaude autour des doigts, autour des talons, autour des chevilles. Et il les sentait tiédir et revivre, comme de petits oiseaux engourdis que des soins ranimeraient. Une goutte d'eau passa, il la but. Dès lors, ses lèvres se posèrent en baisers lents, à peine appuyés, suivant les courbes et tressant sur la peau un voile de caresses et de douceur. « Pascal, soupira Madeleine, laissez-moi, je vous en prie. » À genoux, il la regarda un moment, laissant s'exaspérer. Elle ne bougeait pas. Cependant, il s'éloigna. Ainsi, depuis Coutances, cette vie durait, et elle dura quelques jours, sans autre incident que les petits faits, énormes et insignifiants, par où s'affirmait leur amour. Ils avaient parcouru les merveilleux pays qui bordent la baie de Saint-Michel. Granville, vieux nid de mouettes perchés sur un roc, les étonna. Ils chérirent Avranches, cité féerique, reine de l'espace. Et ils entrèrent dans la région convulsée où se cachent les étranges villes de Mortain et de Domfront. Et c'était une vie incomparable, une vie d'allégresse et d'enthousiasme où s'épanouissait leur amour ainsi qu'une fleur ivre de sève. C'est une vie libre, sans restriction ni borne. On a l'impression d'une liberté physique absolue, comme si les sens étaient délivrés d'entraves ignorées, comme si les yeux se mouvaient plus librement dans les orbites et que les oreilles entendissent des sons qui demeurent d'ordinaire imperceptibles. C'est une vie d'être surhumain. La merveilleuse sensation. Voler comme des oiseaux, en silence, dans l'air soumis. Voir comme des dieux, le changement ininterrompu des décors. Descendre des plaines dans les vallées. Grimper le long des collines. Rouler de ville en ville. Suivre les fleuves, franchir les forêts, et tout cela par la toute-puissance de ses muscles, le fonctionnement normal de ses poumons, la ténacité de son vouloir. Des inconvénients, il n'y en a pas. Le soleil qui vous cuit la nuque, on l'aime, et on ne déteste plus la pluie qui vous cingle, ni le vent qui vous heurte, car on se sent formidable, vainqueur des éléments, maître du monde. Pascal, soulevé par des élans d'exaltation, s'abandonnait à la joie des paroles. « Nous avons des ailes, Madeleine. N'est-ce pas que vous avez comme moi cette vision affolante que l'homme a des ailes maintenant? Qu'il les ouvre donc toutes grandes, qu'il vole enfin puisqu'il lui est permis de ne plus ramper. Voici des ailes qui nous poussent, encore inhabiles et imparfaites, mais des ailes tout de même. » C'est l'ébauche qui s'améliorera jusqu'au jour où nous planerons dans les airs, comme de grands oiseaux tranquilles. Voici des ailes que le destin nous offre. Voici des ailes pour nous éloigner de la terre, pour nous moquer du monde et de ses méchancetés et de ses bêtises. Voici des ailes pour nos âmes affranchies. Oh, vous tous qui languissez après l'espace régénérateur, vous qui voulez être saints, généreux, enthousiaste, vous qui voudriez être bon et noble, voici des ailes. Vous qui enviez les oiseaux libres, vous qui cherchez des dieux derrière les nuages, vous qui jetez vos rêves et vos prières aux étoiles lointaines, voici, à portée de votre main, voici des ailes pour assouvir votre idéal. Et il s'écriait : les bornes étouffantes de l'horizon sont détruites. Et la nature est conquise. Nous sommes plus haut qu'elle aujourd'hui. Elle nous écrasait par son immensité lourde. Nous la dominons par notre vol. Nous n'éprouvons plus ce sentiment d'impuissance et de petitesse qui nous désespère quand on chemine au ras des routes, ainsi qu'une fourmi laborieuse. La nature est nue devant nous. Elle s'offre. Qui veut la prend? C'est l'amoureuse livrée, heureuse de la caresse saine et complète. Et il disait aussi, «
Comment aurions-nous pu ne point nous montrer, selon la vérité même de notre être, en toute simplicité, en toute naïveté? Les choses ne mentent pas, et l'on ne ment pas non plus quand on est fondu dans ces choses elles-mêmes. On est ce que l'on est, sans hypocrisie, sans apparat. On croirait qu'une formidable poussée de sève et de joie a fait craquer l'enveloppe factice que le monde nous impose, et qu'enfin jaillissent de nous les vrais trésors de notre âme. Chaque minute les révélait des sens analogues, doués des mêmes espoirs et des mêmes besoins. Et ils ne le savaient pas seulement par des raisonnements et des constatations, mais par quelque chose de plus mystérieux et de plus puéril, par le rythme égal de leurs jambes, par l'inclinaison pareille de leur buste, par la similitude de leur énergie physique et de leur jeunesse. Et chaque jour, ils s'aimaient davantage. Un après-midi, ils allaient à l'aventure. Une contrée onduleuse les berçait parmi les magnificences de ses horizons. Ils parvinrent à la lisière d'une forêt dont la calme fraîcheur débordait sur le chemin. L'ombre les tenta, ils mirent pied à terre. Du haut des hêtres droits comme des colonnes descendait une paix religieuse. Ils n'osaient parler, envahis de respect et d'angoisse. La mousse des sentiers enveloppait leurs pas. Soudain, comme ils apercevaient la lueur d'une clairière, un bruit de voix les arrêta. Cela leur parut anormal, aussi étrange en ce lieu qu'une clameur en la nef d'une église. Furtivement, ils s'approchèrent, dissimulés par des taillis de jeunes arbustes. Chacun d'eux, à travers les branches, avança la tête. Pascal étouffa un cri et fit un mouvement pour s'élancer. Mais Madeleine lui saisit le bras de ses doigts crispés. Il la regarda machinalement, les yeux fous, interdit sous l'ordre de cette volonté supérieure. « Venez, venez » murmura-t-elle. Il voulut se dégager. Elle déclara d'une voix plus impérieuse « C'est mon amour que vous sacrifiez, Pascal !» Il se laissa conduire à quelques pas, comme un aveugle obéissant. Elle l'assit à ses genoux et lui prit la tête entre ses mains. Alors, il se mit à pleurer. Dans le temple clos de la clairière, dont les arbres se rejoignaient en coupole, Guillaume caressait Régine. Immobile, elle s'étalait sur l'herbe luxuriante, les bras et la poitrine nus. Couché près d'elle, il lui baisait la chair. Sa bouche se complaisait à chacun des doigts écartés, les absorbant comme des friandises et leur laissant de chatoyantes bagues. Sa bouche buvait à la paume offerte comme à une coupe frémissante. Sa bouche s'attachait longuement au poignet délicat, comme si elle lui eût forgé à petits coups de lèvres un bracelet invisible. Lentement, par gestes martelés, elle s'enroulait autour du bras étendu, ciselant des gourmettes et des anneaux, où parfois, en une pose choisie, elle rivait comme des pierres précieuses et des médaillons d'un art délicat. L'aisselle la retint pour de plus mystérieuses joies. Puis elle en vint aux épaules rondes, et elle ne fit qu'y suspendre un collier de perles espacées, car la gorge impatiente attendait comme si sa double cime eût été le but et la raison de cette promenade voluptueuse. Et la bouche orna de baisers l'adorable trésor des seins. Elle les entoura l'un après l'autre de cercles rigoureux qui allaient en s'étrécissant. Puis, à mailles serrées, elle leur tressa des chaînes qui toutes rayonnaient vers les pointes fines. Et chaque fois, pour les y nouer, c'était une halte savante et un travail infiniment subtil. Chapitre 9. Régine et Darjol avaient passé non loin d'eux. Enlacés, Madeleine se pencha sur Pascal. Ses larmes ne coulaient plus. Elle lui dit doucement « Vous ne vous doutiez donc de rien ?»«
Non, de rien. »
« Et cela vous fait souffrir ?»«
Oui, je souffre. »
Il reprit aussitôt « Je vous demande pardon, Madeleine. Je ne devrais pas souffrir puisque je vous aime et que je n'aime plus Régine. Et cependant, je suis tout meurtri. » « Oh, dit-elle, je ne vous en veux pas. Il est tout naturel que vous pleuriez. C'est votre confiance qui s'en va, votre illusion. »
Voilà pourquoi je souffre, Madeleine. J'avais foi en elle malgré sa légèreté. Je la croyais une honnête petite créature, et puis, la voir se livrer, là, comme une bête, quelle infamie.
Elle sourit avec indulgence. « Pascal, quand vous embrassiez l'autre jour mes pieds nus, était-ce une infamie ?»«
Comment pouvez-vous comparer, Madeleine, notre jolie joie si pure et la leur si malsaine ?»«
La nôtre était-elle si pure ? Qui sait si la leur ne l'est pas davantage ?»
Il se souleva sur les poignets, les traits en désordre, et balbutia.
« Madeleine, croyez-vous qu'elle soit sa maîtresse ?»
Après une légère hésitation, elle répondit « Non, je ne le crois pas. »
« Oh, si je le croyais » proféra-t-il en serrant les poings, tout son amour-propre de mâle s'exhalant en rage violente.
Elle lui berça la tête, elle flatta ses cheveux et son visage, elle fut infiniment tendre.
« mon Pascal chéri, n'ayez pas d'amertume. Ce qu'ils font tous deux, nous le faisons aussi, mais ils le font selon leurs instincts. Pourquoi ne s'aimeraient-ils pas, puisque nous nous aimons ?»«
Ce n'est pas la même chose. Il est son amant, peut-être, ou il le sera. »
Elle lui dit d'une voix grave, le tutoyant pour la première fois.
« Ne seras-tu pas le mien, Pascal ? Ne me suis-je pas promise à toi ?»
Ces mots l'apaisèrent, et d'autres mots encore, affectueux et sages, et des câlineries charmantes dont elle enveloppait sa douleur comme un chagrin d'enfant. Des heures s'écoulèrent, il fallut partir. Devant les machines, elle s'écria « Tenez, Pascal, les voilà les vrais coupables !» Et plus tard, comme la bonne et maternelle nature les emportait, elle compléta sa pensée. Eux aussi, voyez-vous, cette vie les a changés. Comme nous, ils sont affranchis, rendus à leurs véritables instincts. Ce qu'ils n'auraient pas fait à Paris, ils le font ici, où les obstacles qui les séparaient leur semblent tout à coup supprimés, et où ils ne voient pas trop pourquoi ils n'agiraient pas à leur guise. Peut-être Guillaume n'a-t-il pas attendu, car il est permis davantage à l'homme d'être lui-même. Mais Régine avait sans doute des besoins d'amour.
« D'intrigue, plutôt, » ricana Pascal. « Ne soyez pas injuste. Leur amour ne se manifeste pas de la même façon, voilà tout. Et qui de nous a raison ?»
Après un silence, il prononça « Ce que je sentais en elle avec une sorte d'inquiétude. » Ce que j'ignorais d'elle, c'était donc cela, le désir de l'homme.
C'était cela et d'autres choses encore, qui sait. Nous étions tous quatre comme une terre encombrée de cailloux. On la débarrasse et il y germe alors toutes les fleurs dont elle est capable. Si nous admirons celles qui poussent en nous, pourquoi nous déconcerter devant celles qui poussent en eux ?
Oh, fit-il. Je m'étonne de moi tout autant. Comment ne l'ai-je pas tuée ? Comment n'ai-je pas même eu l'idée de la tuer ? Comment suis-je ici, auprès de vous, presque calme, raisonnant, maître de moi ?
Maître de lui, il le fut encore, quand on se retrouva pour le dîner. Bien qu'évitant d'adresser la parole à sa femme et à son ami, et même de les regarder, il se montra plus exubérant qu'à l'ordinaire. Madeleine, cependant, devina son affectation. Et le soir, défiante, elle le surprit à l'affût dans le jardin de l'hôtel. Un peu plus loin, Régine et Guillaume causaient.
« Je veux savoir !» gronda-t-il d'un ton mauvais.
« Et puis après, quand vous saurez, mon pauvre Pascal, que ferez-vous ? »
Sans lui répondre, il continuait.
« Tenez, comme leurs têtes sont proches, ils s'embrassent, je suis sûre qu'ils s'embrassent. Que je suis bête, parbleu. Oui, elle est sa maîtresse. »
Elle réussit à l'entraîner. La pluie les retint 2 jours,
Pascal fut sombre, et les autres subirent l'influence de son humeur. Madeleine surtout s'attristait.
« Vous vous en allez de moi, Pascal. »
« Oh non, ne le croyez pas, mais je lutte contre un tas de choses qui me font du mal. Et puis, j'ai honte. Ma souffrance est si vilaine. »
« Écartez-la. »
Il ne pouvait pas. Visiblement, il ne cessait d'y penser, et il s'oubliait à lui en parler dès qu'ils se trouvaient ensemble. Il reprenait les faits, tirait des preuves. Une fois, il lui dit « C'est elle qui est la première à exiger deux chambres. S'ils ont succombé, c'est peu de temps après, le soir de notre arrivée à Saint-Lô. Vous souvenez-vous, le lendemain, elle était toute drôle, elle évitait Guillaume. Elle a tenu à faire la route de Coutances avec moi, et elle m'accablait d'amabilité. Sûrement je ne me trompe pas. »
Madeleine fut peinée que cette époque si douce ne lui rappela pas plutôt leur aveu d'amour. Elle commençait aussi à s'affecter de sa conduite. Il lui fallait, pour ne l'en point punir, des efforts continuels et toute l'aide de sa bonté. Mais un matin, de sa fenêtre, elle l'aperçut qui marchait aux côtés de Régine dans les allées du jardin. Ils s'assirent tous deux. Il avait l'air attentif, empressé. Régine riait comme une folle. Madeleine souffrit cruellement. Elle descendit et se dirigea droit vers eux, d'un pas heurté, le visage dur, comme si elle était décidée, à son insu, à quelque révolte irréparable. Quand elle approcha, Pascal s'efforçait de prendre la main de Régine. Il ne la vit point venir, mais Régine se sauva en simulant l'effroi.
« Nous sommes perdus, mon pauvre ami, c'est le flagrant délit !»
Madeleine s'arrêta brusquement. Elle parut s'éveiller d'une sorte d'inconscience, regarda Pascal ainsi qu'un étranger et s'en retourna, sans un reproche. Bouleversé, il la suivait en suppliant
« Ne m'en veuillez pas, je ne sais plus ce que je fais, je la déteste et pourtant je ne veux pas qu'elle soit à un autre. Tout mon amour-propre saigne à cette idée. Il n'y a guère de quoi souffrir pour vous, Madeleine. C'est de l'amour-propre, je vous le jure, rien qu'un vilain amour-propre d'homme dont je ne peux pas me défaire. Oh, Madeleine, soyez indulgente !»
Elle lui tint rigueur cependant, et l'après-midi, quand on se remit en route, elle resta froide et silencieuse. Un clair soleil brillait, la pluie avait lavé les feuilles et aboli toute poussière. Ils avancèrent rapidement, avides d'user en énergie physique l'effervescence de colère et de rancune qui les tourmentait. Le chemin s'élevait parmi de hautes collines vers un pays plus âpre et plus mort, où l'on ne découvrait d'autres vestiges d'habitation que des huttes éparses de bergers. De rudes côtes se dressaient, qu'ils grimpèrent d'un élan tenace. Malgré l'habitude prise, ils ne s'arrêtèrent même pas en voyant les deux bicyclettes de Régine et de Guillaume appuyées au talus. Madeleine fit seulement observer « Ils ne sauront pas que nous sommes devant eux.
Eh bien, ils nous croiront derrière, qu'importe !»
Ils franchirent un plateau brûlé par le soleil, d'où l'on apercevait au loin une côte blanche qui montait jusqu'au col. La chaleur était intolérable. Madeleine demanda grâce. La rencontre d'un petit sentier adjacent les détermina à gravir le flanc de la montagne. Il y avait là quelques sapins, ils se reposèrent à leur ombre. Autour d'eux, c'était une lande sauvage, aride, d'une végétation mélancolique. Nul vol d'oiseaux ne l'égayait, nulle silhouette humaine n'en rompait la solitude. Ils se sentirent horriblement tristes et très loin l'un de l'autre. Ils cherchèrent à se rapprocher. Mais soudain Madeleine dit
« Ah, tenez, les voilà !»«
Ne nous montrons pas !» exigea Pascal vivement. Ils regardèrent. Quand les autres furent à portée de leur regard, ils virent cet étrange spectacle. Régine, les bras nus, le buste nu, nu jusqu'à la ceinture. Elle passa ainsi sous leurs yeux. La tête se redressait en une attitude provocante. La poitrine se cambrait fièrement, et de cette gorge aux pointes aiguës, elle fendait les flots de l'air.
pareilles aux sirènes antiques dont les seins coupaient l'assaut des vagues.
« La gueuse ! La gueuse !»
grinça Pascal hors de lui. Il se leva, prêt à crier, prêt à courir. Elle s'accrocha de toutes ses forces à son bras.
« Je vous en prie, qu'allez-vous faire ?»«
La gueuse ! La gueuse !»
répéta-t-il, ne trouvant pas d'autre injure, les yeux obstinément fixés sur sa femme. On voyait le dos maintenant, le creux profond qui le divisait et la cambrure des reins. Et Guillaume se mit à la caresser du bout de ses doigts frôleurs. Brusquement, Pascal se dégagea. Il s'élançait, quand une plainte navrée le retint. Madeleine lui tendait les bras comme une suppliante. Son visage trahissait l'effort douloureux de tout son être vers un acte suprême qui les sauva. Et soudain, rapidement, en quelques gestes précis, elle enleva son corsage. Elle fit glisser les bretelles de sa chemise et elle apparut à son tour, ainsi que Régine, le buste nu, nu jusqu'à la ceinture. Et c'était infiniment beau. Il chancela comme sous un choc trop violent. « Oh, Madeleine » balbutia-t-il d'un ton presque désespéré, ainsi qu'on se désole en face d'un but qu'on sent inaccessible. « Oh, Madeleine ! Madeleine !» Puis un grand désir le poussa vers l'admirable vision, un grand désir de toucher et de baiser la chair de cette femme. Mais son immobilité orgueilleuse l'intimidait, et il la devinait si triste en sa pudeur violée, si triste d'être contrainte à se servir de sa beauté comme d'un moyen de salut, qu'il n'osait avancer, et qu'il avait honte aussi d'accepter l'offrande d'un tel spectacle. Alors, une dernière fois, éperdument, il regarda, pour n'en jamais oublier la splendeur, les seins épanouis et merveilleux, et, se bouchant les yeux de ses poings crispés, il tomba à genoux. « Je vous demande pardon, Madeleine, je vous demande pardon. »